« Nous ne sommes point dans notre meilleur pour accueillir un hôte, » dit tristement Dame Eliabelle. « Où sont vos fils ? » ?»«
À la chasse comme chaque jour. »
« Et Madame Marie ?» demanda Guccio.
« Hélas, » fit Dame Eliabelle en baissant les yeux.
« Qu'est-il arrivé ?»
Dame Eliabelle haussa les épaules d'un geste de désolation.
« Elle est si bas, » dit-elle, « si faible, que je n'espère plus qu'elle se relève jamais, ni même qu'elle atteigne Pâques. »
« Quel mal a-t-elle ? » dit Guccio avec une impatience anxieuse.
« Mais le mal dont nous souffrons tous, et dont on meurt à foison par ici, la faim, signor Guccio. Pensez donc, si de gros corps comme l'était le mien sont tout épuisés, pensez aux ravages que la faim peut faire sur des filles encore à grandir.
« Mais par Dieu, Dame Eliabelle, s'écria Guccio, je croyais que la disette ne frappait que les pauvres gens. »
Et qui croyez-vous que nous sommes, sinon de pauvres gens? Ce n'est point parce que nous avons la chevalerie et un manoir qui croule que nous sommes mieux lotis. Tout notre bien, à nous, petit seigneur, est dans nos serres et dans le labeur que nous en tirons. Comment pourrions-nous attendre qu'ils nous nourrissent quand ils n'ont pas à manger pour eux-mêmes et viennent mourir devant notre porte en nous tendant la main? Nous avons dû tuer notre bétail pour le partager avec eux. Ajoutez à cela que le prévôt nous a obligés de lui fournir des vivres, d'ordre du roi, a-t-il dit, sans doute pour nourrir ses sergents, car ceux-là sont toujours bien gras. Quand tous nos paysans seront morts, que nous restera-t-il sinon que d'en faire autant? La terre ne vaut rien. Elle ne vaut qu'autant qu'on la travaille, et ce ne sont point les cadavres qu'on y enfouit qui la feront produire. Nous n'avons plus ni valet ni servante. Notre pauvre boiteux,
« celui que vous appeliez votre écuyer tranchant ?»«
Oui, notre écuyer tranchant, » dit-elle avec un sourire triste. « Eh bien, il est parti pour le cimetière l'autre semaine, et tout à l'avenant. »
Guccio hocha la tête d'un air de compassion. Mais une seule personne dans tout ce drame lui importait.
« Où est Marie ? » demanda-t-il.
« Là-haut, dans sa chambre.
Puis-je la voir ?
Venez. »
Guccio la suivit dans l'escalier qu'elle gravit d'un pas lent, marche à marche, en s'aidant de la corde de chanvre qui pendait le long du pivot de la vis. Marie de Crécy reposait sur un lit étroit à l'ancienne mode, où les couvertures n'étaient pas brodées et où les matelas et les coussins étaient très élevés sous le buste, en sorte que la personne allongée semblait sur un plan incliné, les pieds piquant vers le sol.
« Messire Guccio, messire Guccio, » murmura Marie.
Ses yeux étaient agrandis d'un cerne bleu. Ses longs cheveux châtains et or étaient épars sur un oreiller de velours râpé jusqu'à la trame. Ses joues amincies, son cou fragile présentaient une transparence inquiétante. L'impression de rayonnement solaire qu'elle donnait auparavant s'était effacée, comme si un grand nuage blanc fût passé au-dessus d'elle. Dame Eliabelle se retira pour éviter de montrer ses larmes.
« Marie, ma belle Marie, » dit Guccio en s'approchant du lit. « Enfin, vous voilà. Enfin, vous êtes de retour. J'ai eu si peur de mourir sans vous revoir. »
Elle regardait intensément Guccio et ses yeux contenaient une grande question inquiète. Inclinée comme elle se trouvait par l'étrange entassement des matelas, elle ne semblait pas absolument réelle, mais découpée dans quelques fresques, ou plutôt dans un vitrail aux perspectives redressées.
« De quoi souffrez-vous, Marie ? » dit Guccio.
« De faiblesse, mon bien-aimé, de faiblesse, et puis de la grande crainte que vous m'ayez abandonné.
J'ai dû aller en Italie pour le service du roi et partir si hâtivement que je n'ai pu vous en avertir. »«
Pour le service du roi ? »
répéta-t-elle faiblement. La grande interrogation muette était toujours au fond de son regard. Et Guccio se sentit brusquement honteux de sa bonne santé, de ses vêtements fourrés, des semaines insouciantes passées en voyage, honteux même du soleil de Naples, honteux surtout de la vanité qui l'emplissait jusqu'à l'heure précédente pour avoir vécu parmi les puissants de ce monde. Marie avança sa belle main amaigrie, et Guccio prit cette main. Et leurs doigts refirent connaissance, s'interrogèrent et finirent par s'unir, entrecroisés dans ce geste où l'amour se promet plus sûrement que par un baiser. Comme si les mains de deux êtres se liaient pour une même prière. La question muette disparut alors du regard de Marie. Elle ferma les paupières, et ils restèrent ainsi un moment sans parler.
« Il me semble, à tenir vos doigts, que j'y puise force, » dit-elle enfin.
« Marie,
Voyez ce que je vous ai apporté. »
Il tira de son aumônière deux plaques d'or fines et gravées, incrustées de perles et de pierres cabochons, comme il était de mode alors dans les classes riches d'en coudre au col des manteaux. Marie prit les plaques et les éleva jusqu'à ses lèvres. Guccio eut un serrement de cœur, car un bijou, fût-il ciselé par le plus habile orfèvre de Florence ou de Venise, n'apaise point la faim.
Un pot de miel ou de fruits confits eût été aujourd'hui un meilleur présent, pensa-t-il,
et une grande hâte d'agir le saisit.
« Je vais aller chercher de quoi vous guérir, s'écria-t-il.
« Que vous soyez là, que vous pensiez à moi, je ne demande rien d'autre. Partez-vous déjà.
Je serai de retour dans peu d'heures. »
Il allait franchir la porte.
« Votre mère, c'est elle ? »
dit-il à mi-voix. Marie fit des paupières un signe négatif.
« Je n'ai point voulu disposer de vous, répondit-elle. C'est à vous de disposer de moi, si Dieu veut que je vive. »